avec notamment François Veillerette, directeur de Génération Future, et Bernard Jégou, directeur de l'IRCET Rennes. Bernard Jégou, qu'on aura dans quelques instants, qui nous parlera de son travail de biologiste et de toxicologue, et de son ouvrage également « La fertilité est-elle en danger ?». Il date déjà de 2009, mais les problématiques qui y sont développées sont bien sûr toujours d'actualité. Mais d'abord, avec François Veillerette de Génération Future, on va parler de ces perturbateurs endocriniens, plastique, plasticides, aliments, boîtes de conserve, tickets de caisse, de nombreux objets de notre vie quotidienne en contiennent. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien. Voilà pour la description du ministère de l'Environnement. À Génération Future, on rappelle surtout le coût annuel des perturbateurs endocriniens, qui serait pour la société entre 150 et 260 milliards d'euros par an. François, comment est-ce que vous évaluez ce chiffre? Comment est-ce que vous arrivez à chiffrer ce coût pour la société?
Alors, c'est pas notre association qui a fait ce chiffrage, hein. C'est une société savante internationale qui regroupe à peu près 15 000 médecins, endocrinologues, scientifiques, etc., qui s'appelle l'Endocrine Society, qui a chiffré pour l'Europe, par an, les coûts effectivement sanitaires directs et indirects des perturbateurs endocriniens à un peu plus de 150 milliards minimum, ce qui est considérable, dont 120 milliards pour les seuls pesticides perturbateurs endocriniens. Donc c'est un travail qui est le résultat d'une expertise scientifique internationale.
Et qu'est-ce que contient ce chiffre alors?
Si vous voulez, dans les coûts sanitaires directs, vous avez bien sûr les coûts de soins, etc. Mais il y a aussi des coûts indirects, parce que quand on est malade, on ne va pas travailler, par exemple. Donc il y a des coûts de remplacement, d'indemnité maladie, etc. Des coûts de construction d'unités de soins, etc. Ce sont tous les coûts sociétaux indirects liés à ces pathologies chroniques, certains cancers, des problèmes de reproduction, des maladies du métabolisme, etc., sont des maladies lourdes et très très impactantes et onéreuses pour la société. Donc ce chiffrage, il ne tient pas compte uniquement des coûts de soins, mais des coûts indirects également pour sociétaux.
On verra comment cette question des perturbateurs endocriniens est arrivée peu à peu dans la sphère publique avec Bernard Jégou dans quelques instants. Mais avant tout, pour qu'il y ait un vrai changement, quel pourrait être selon vous le déclic dans notre société moderne?
Alors, il y a déjà eu un bon commencement de prise de conscience. Il y a quelques années, quand on parlait de perturbateurs endocriniens, on vous disait quoi, comment, qu'est-ce que c'est. Maintenant, le sujet commence à être connu, commence à être pris en compte même par un certain nombre de responsables politiques. On vient de traverser une campagne électorale présidentielle. Il y avait au moins 3 candidats qui ont parlé des perturbateurs endocriniens dans leur programme. 2 d'entre eux, d'ailleurs, ayant des mesures, des objectifs forts de suppression de ces produits dans les produits de consommation. Donc on voit qu'il y a un début de prise de conscience. Maintenant, si vous voulez, au-delà de la prise de conscience, ce qu'il faut, c'est des actes maintenant pour pouvoir agir rapidement et retirer effectivement les perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir un effet néfaste pour l'homme ou la biodiversité des produits de consommation, des pesticides, des plastifiants, des produits qu'on utilise comme inifugeants, etc., etc.
Alors, Génération Future, vous mettez en place des dispositifs un peu originaux pour essayer de solliciter une réaction de la sphère publique, de l'opinion publique, comme par exemple avec les candidats à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous avez mis en place ou que vous avez envie de mettre en place justement pour interpeller sur cette question?
Alors, nous, on a fait effectivement à Génération Future un certain nombre d'enquêtes qui montrent simplement que les perturbateurs endocriniens sont là, dans l'environnement, et qu'ils finissent leur vie dans nos organismes. Ça, c'est quelque chose qui doit permettre de comprendre la nécessité d'agir. Quand vous analysez des cheveux, vous analysez effectivement les urines des personnes et vous apercevez que les produits sont déjà dans les organismes où ils accomplissent leur méfait. Nous, notre travail en tant qu'association, c'est de faire comprendre aux responsables qu'on est potentiellement face à un énorme problème de santé publique, puisque ces produits, même présents à faible dose dans l'environnement, peuvent avoir des impacts sur la santé présente et à venir des organismes les plus sensibles, notamment quand c'est le fœtus qui est exposé dans le ventre de sa mère ou le très jeune enfant. Donc pour faire ça, par exemple, sur la question de l'eau, on a simplement relu des données officielles et noté qu'il y avait la moitié ou même plus de la moitié des pesticides trouvés en résidus dans les eaux, soit les eaux de surface, soit les eaux du robinet, qui sont des pesticides suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un problème de détail, mais c'est un problème qui est consubstantiel de la question de la pollution de notre environnement par les pesticides, par exemple. Et, bien sûr, les perturbateurs endocriniens sont présents dans beaucoup d'autres produits de consommation, sur lesquels on met aussi un coup de projecteur, notamment les produits cosmétiques.
Merci beaucoup François Veillerette. On rappelle que vous êtes directeur de Génération Future. J'invite donc nos auditeurs à aller jeter un œil sur ce site pour une association qui se mobilise vraiment sur de nombreux sujets perturbateurs endocriniens, mais bien plus largement. Et nous sommes également avec Bernard Jégou, qui est directeur de l'IRCET Rennes, biologiste, toxicologue de la reproduction. Il est président du conseil scientifique de l'INSERM, également directeur de recherche au sein du laboratoire de l'université de Rennes, et puis l'auteur du livre La fertilité est en danger. Bonjour.
Bonjour.
Alors dans votre ouvrage justement qui date de 2009, vous parlez de cette question des perturbateurs endocriniens, une question restée longtemps ignorée. Et pourtant vous, très rapidement, dès les années 90 et le milieu des années 90, vous décidez de réunir les spécialistes du monde entier pour confronter leurs opinions sur le sujet, les stratégies en cours et leurs différentes méthodologies. C'était donc en 96. Pourquoi vous êtes-vous imprégné de cette idée-là et mobilisé très rapidement ?
Oh, c'est souvent le hasard des circonstances. De connaître les Scandinaves, j'ai vécu en Scandinavie, qui était à l'initiative de la première expertise collective dans le domaine qui a été publiée dans Environment Health Perspective maintenant, et puis aussi bien sûr une espèce de mûrissement de la réflexion à partir de recherches fondamentales et la boîte à outils dont nous disposions à l'époque.
On voit que de nombreux universitaires, c'est d'abord vraiment les universitaires qui vont se mobiliser sur cette question. La prise en considération administrative et politique sera pas si tardive que ce qu'on peut prétendre, mais avant que ça n'arrive vraiment dans notre sphère publique, via notamment des journaux ou que les associations s'en emparent, il faudra attendre 2007. Et on note aussi qu'à un moment donné, quand vous travailliez au tout départ, il y avait un travail avec les industriels et les lobbyistes qui était possible, notamment à travers différents groupes d'action. Je pense à un qui avait été plus ou moins, dont on a accordé la paternité à L'Oréal, vous me direz ce que vous en pensez. Une façon de travailler qui n'est plus possible aujourd'hui. Comment se fait-il que c'était possible à une époque et que ça ne l'est plus aujourd'hui?
Il est toujours possible de travailler avec le privé, mais il faut que chacun soit à sa place. Et d'ailleurs, en parlant de sa place, moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas responsable d'une association et dans la chaîne de réflexion et d'action, toutes les mailles de cette chaîne sont importantes. Je suis au niveau des chercheurs et je dirais c'est un travail de mineur de fond un petit peu et qui fait que dans la complexité de l'interaction entre les humains ou d'ailleurs les espèces vivantes en général et leur environnement, on prend la mesure de la complexité de cet environnement. Donc le problème aujourd'hui, c'est de réunir toutes les disciplines possibles pour prendre exactement la mesure de la situation chez les humains. En particulier, les données se sont accumulées de façon vertigineuse et très utile chez toutes les espèces vivantes pratiquement, ou sur les mesures et le raffinement des méthodes pour objectiver les concentrations auxquelles nous sommes exposés. Maintenant, le gros travail, c'est de rapatrier ça sur la connaissance de l'homme, de la femme enceinte, de la femme, des enfants, et de mettre ça en contexte, bien sûr, pour venir nourrir la décision publique. Et bien sûr, là aussi, nous accompagnons très étroitement ces choses-là en participant à un très grand nombre de groupes d'experts.
Alors justement, cette décision publique, on peut citer par exemple Ségolène Royal qui déclarait « Je m'engage à faire évoluer la réglementation et les connaissances scientifiques sur les perturbateurs endocriniens pour protéger la santé de tous et l'environnement ». Marisol Touraine partait, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, également sur le constat de la baisse de fertilité, des malformations congénitales. Ça, c'est à travers un grand plan national santé-environnement 2015-2019 que ça a été mis en place. Comment est-ce que c'est arrivé justement sur la table et qu'est-ce qu'il contient ce plan ?
Dès que la préalerte a été donnée au début des années 90 sur ce papier de Niels Kakebæk à Copenhague et qui montrait une érosion de la production spermatique humaine, avec Pierre Joinet et Alfred Spira, Pierre Joinet qui était à la tête du plus gros service de biologie de la reproduction à Paris et Freddy Spira qui était à la tête d'une grosse unité d'épidémiologie, nous avons fait le tour des ministères. Et je dois dire d'ailleurs, tout gouvernement confondu ou tout président de la République confondu, la réponse en France a été forte, et avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais le lancement de ces plans que vous évoquez, nous avons été très présents. Et j'ai eu l'honneur, entre autres, d'être le premier président du Conseil scientifique du plan national sur les perturbateurs endocriniens. Et il y a eu une continuité, et croisons les doigts, espérons. Non seulement il y aura continuité, mais il y aura sans doute, on l'espère, une augmentation des budgets mis en ligne et des recrutements de chercheurs sur ces thèmes.
Alors avant d'en arriver là, puisque justement c'est la question la plus brûlante, une question d'abord sur le réseau environnement santé aussi, cette fédération d'assaut qui en 2009 s'est un peu emparée de cette question-là aussi. Quel a été leur rôle? Comment est-ce qu'on peut expliquer d'abord que ça a attendu 2009 pour que les associatifs s'emparent de cette question?
Bon, d'une part, les délais en fait sont courts. Et puis, comme je le disais, c'est un travail collectif où chacun est à sa place, les chercheurs. D'autant plus qu'on touche de l'argent public, on a un devoir d'accomplir ses missions lorsque la société attire ou des associations ou les pouvoirs publics notre attention sur des problèmes qui relèvent de la santé publique. Et puis chacun sait ce dialogue. C'est ce dialogue d'ailleurs qui à mettre en exergue par rapport à l'excellente initiative qui a été prise pour ce débat d'hier soir, et où on n'est pas là en tant que contradicteur, où on est là pour dialoguer. Et chacun apportait sa pierre à l'édifice, entre souvent une science dans certains domaines qui est encore balbutiante, celle par exemple de l'exposome chimique. À quel mélange sommes-nous exposés? Les technologies disponibles viennent juste d'émerger, il faut les maîtriser. Et puis après, la traduction des résultats, y compris, comme je vous le dis, pour alimenter la réflexion des associations et des pouvoirs publics.
Ce sont justement les grands axes de ce plan, troisième plan national santé-environnement qui doit s'achever en 2019 avec donc la recherche, l'expertise, bien entendu, différentes réglementations, innovations et puis l'information du public, les sensibiliser aux risques pour éclairer les choix de consommation. Donc on l'a dit, 2019, ça va être influencé et vous avez l'air assez confiant par cette arrivée du nouveau président de la République pour que ça aille mieux, voire encore mieux, notamment au niveau des crédits de recherche.
En tout cas, ça ne peut pas être pire. Même s'il y a eu une continuité, Et même s'il faut reconnaître que ce domaine, qui est très sensible sociétalement, a bénéficié relativement d'une aide qu'il faut saluer, il faut relancer tout ça, clairement. Ne serait-ce aussi parce que la recherche plutôt appliquée sur les perturbateurs endocriniens doit se nourrir des avancées fondamentales ou des avancées technologiques. Et il faut que ce soit tout le système qui soit irrigué, et il est temps que la France se ressaisisse, que l'Europe d'ailleurs se ressaisissent aussi dans ces domaines.
Vous dites que c'est un domaine sensible, c'est-à-dire parce que ça touche à notre fertilité, donc à notre capacité à nous reproduire?
Alors, très brièvement sur la fertilité, qu'on puisse, en certains endroits, on ne peut pas généraliser, observer des signaux d'alerte réels sur des paramètres qui relèvent de la fertilité ne veut pas dire nécessairement que la fertilité décroisse. C'est très difficile d'extraire de l'évolution culturelle, sociétale, du nombre d'enfants qui diminue par famille, ce qui reviendrait à l'environnement à proprement parler. Mais c'est là aussi, quand je parle de réunir toutes les disciplines, les démographes qui travaillent sur l'évolution des populations, les anthropologues, etc., il y a encore un fossé qui est trop large entre la recherche biomédicale et ces secteurs-là, et nous espérons que le dialogue va s'approfondir dans tous les secteurs pour essayer de bien comprendre les évolutions de la population humaine.
Vous avez noté le rôle que pouvait avoir l'Union européenne, éventuellement en tout cas l'échelle européenne, pour développer des dispositifs, notamment de prise en charge des problèmes environnementaux. C'est une bonne échelle pour fonctionner, notamment sur les perturbateurs endocriniens?
Entre chercheurs, le dialogue est extrêmement positif. D'ailleurs, comme dans l'Hexagone, hein, il faut saluer vraiment la solidarité de cette communauté scientifique qui est très, très, très compétitive, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Le problème, où le problème cristallise aujourd'hui, c'est la porosité entre des lobbies industriels et certains niveaux de commission européenne. Et là, clairement, comme je le disais tout à l'heure, on peut dialoguer avec, y compris le privé, mais en ce moment, on fait place à une coalition d'intérêts qui veut complètement figer la question, retarder la mise en application de la directive REACH. Et là, c'est pas seulement aux associations, mais c'est aussi aux chercheurs de tirer la sonnette d'alarme. Le niveau européen doit être le niveau, d'autant plus, on voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis, qui maintient très haut la flamme de la qualité de l'environnement et de l'impact sur les populations en général et sur le système. Maintenant, à condition qu'on arrive à mettre fin à cette collusion qu'il y a pour bloquer, par exemple, le développement de la directive REACH.
Mais alors justement, je vais revenir à cette toute première question, puisqu'on a un peu fait le tour à ce moment-là. Bernard Jégou, comment est-ce qu'on explique qu'au départ, l'industrie, notamment pharmaceutique, cosmétique, ait contribué à établir les axes prioritaires de cette recherche au niveau européen, et aujourd'hui soit plutôt un front qui empêche d'avancer? Qu'est-ce qui
s'est passé? Alors, ce à quoi j'ai été témoin, avec d'excellents scientifiques du privé, hein, il faut bien le dire aussi, C'est qu'au début, dans le dialogue avec nous, ils avaient besoin qu'on les aide à constituer les dossiers auprès de la Commission européenne. Aujourd'hui, on est à une autre échelle, puisqu'il y a une directive européenne, REACH, qui est tout à fait vertueuse au niveau mondial, à condition qu'on la mette en application. Là, maintenant, je vous dis, les coalitions d'intérêts, ce n'est pas forcément les mêmes industriels. Le bloc européen de l'industrie n'est pas forcément homogène, mais en tout cas, tous ceux qui pensent que leurs intérêts sont mis en danger par la mise en place de cette directive, savent s'organiser, sont puissamment organisés pour retarder les échéances.
Comme dans de nombreux domaines, malheureusement, qu'est-ce qui pourrait être, c'est la même question que j'ai posée tout à l'heure à François de Génération Future, qu'est-ce qui pourrait être le déclic dans la sphère publique qui pourrait faire que cette question soit vraiment... et que notamment cette directive européenne soit respectée?
C'est une question éminemment démocratique. Et il n'y a pas que dans le domaine de la perturbation endocrinienne, ou quelquefois, c'est une opinion personnelle que j'aimais ici, on a l'impression que l'écoute des plus hautes instances européennes n'est pas optimale. Donc c'est la mobilisation des citoyens, des chercheurs, et tout ça de façon sereine, mais de façon déterminée, clairement.
Et vous parlez du fait que le chercheur peut être aussi militant sur ces questions-là. Est-ce qu'il faut être méfiant tout de même?
Ne confondons pas les deux. Je crois que pour vraiment, dans les Côtes d'Armor, être souvent auprès de mes amis de mon origine géographique, le citoyen attend que le chercheur soit à sa place. Il n'est pas dupe. Mmh. Et encore une fois, le discours militant, je peux le comprendre. Mais si j'ai une blouse blanche, je parle en tant que chercheur. Et c'est dans la crédibilité des informations qu'on peut apporter que je pense, dans toute cette chaîne démocratique, les choses bougeront.
Bernard Jégou, je rappelle que vous êtes biologiste et toxicologue, que vous êtes d'ici Rennes, l'université de Rennes 1 notamment, et l'auteur de « La fertilité est-elle en danger ?» paru il y a quelques années déjà, que j'invite nos auditeurs à le consulter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Oui, juste un point, il y a aussi l'École des hautes études en santé publique et l'INSERM qui nous aident beaucoup dans toute cette aventure scientifique et humaine.
Qui est en plus juste à côté de chez nous. On invite également donc les étudiants de Villejean à aller faire un petit tour. C'est vraiment pas très loin, avec un bon gros fond documentaire et plein de choses intéressantes à y découvrir. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission.
Merci.